Force Info. Des informés de l'écho, Emmanuel Cuny, Jules De Kiss.
Les informés de l'écho, tous les samedis à 7h06 sur France Info, avec vous Emmanuel Cuny, bonjour.
Bonjour à tous.
Nos informés ce matin, Jezabel Coupé-Soubéran, bonjour à vous.
Bonjour.
Économiste, conseillère scientifique à l'Institut Veblen pour les réformes économiques, et Philippe Trénard,
bonjour.
Membre du Cercle des économistes, bonjour à vous, professeur titulaire de la chaire d'assurance aussi au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Emmanuel Cuny, au programme aujourd'hui, la puissance des crypto-monnaies, parce que les monnaies virtuelles, pour certaines, sont en vogue, comme le Bitcoin, qui vient à nouveau de dépasser les 50 000 dollars l'unité cette semaine.
Oui, alors si vous le voulez bien, peut-être d'abord une définition. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? C'est tout simplement une monnaie entre guillemets virtuelle qui existe bel et bien, mais elle n'est pas en version sonnante et trébuchante, en billets ni en pièces. Au plus haut depuis 2 ans, le Bitcoin semble bel et bien parti vers de nouvelles ascensions. Il faut savoir quand même que, indépendamment de ne pas avoir de valeur sonnante et trébuchante, comme je le disais, le Bitcoin n'est pas du tout régulé par les grandes banque centrale. On va voir quel problème cela peut poser. Alors, oubliez les récents scandales, les déboires de certains investisseurs qui ont tout perdu il y a quelques années en l'espace de quelques minutes. Tout simplement, va-t-on vers une nouvelle ère monétaire? Aux États-Unis, en tout cas, en novembre dernier, Binance, qui est considéré comme la première plateforme mondiale d'échange de crypto-actifs, Binance a passé un accord avec les autorités de régulation américaines. Et je vous propose d'écouter un rappel du contexte par la secrétaire américaine au Trésor, Madame Janet Yellen.
Binance permettait à des acteurs illicites d'effectuer librement des transactions, soutenant ainsi des activités allant des abus sexuels sur les enfants aux stupéfiants illégaux, en passant par le terrorisme dans le cadre de plus de centaines de milliers de transactions.
Voilà, donc cette remise dans le contexte par Janet Yellen, qui a d'ailleurs présidé également la réserve fédérale américaine. Elle est aujourd'hui l'équivalent de notre ministre de l'économie aux États-Unis. Madame Yellen qui oublie quand même, parmi les griefs, de préciser que pas mal de partis politiques sont financés aux États-Unis à travers les crypto-monnaies. C'est un autre sujet. Donc si les grandes banques centrales effectivement voient d'un mauvais œil ces monnaies alternatives, est-ce que nous, Européens, est-ce que les Français, on peut utiliser ce Bitcoin et ces autres crypto-monnaies pour investir notre abondante épargne, centaines de milliards d'euros, je rappelle.
On va voir ça dans un très court instant, mais peut-être d'abord, je me tourne vers vous, Jezabel Coupé-Soubéran, expliquez pourquoi, on sait que les cours sont très volatiles dans les crypto-monnaies, mais pourquoi le Bitcoin atteint à nouveau un cours très très élevé, au-dessus de 50 000 dollars l'unité?
Moi, je vois au moins 3 raisons. Il me semble qu'il y a une raison macro, une raison plus technique et puis une raison institutionnelle. Alors, la raison macro, c'est lié, me semble-t-il, à l'incertitude sur l'évolution à venir des taux d'intérêt. Si on remonte un tout petit peu en arrière, la bulle crypto, elle s'est formée pendant la crise sanitaire, quand les liquidités des banques centrales coulaient à flot. Ça s'est dégonflé assez brutalement avec le resserrement de la politique monétaire, c'est-à-dire avec la remontée des taux face à l'inflation. Et là, on est dans une phase d'incertitude sur l'évolution des taux. Il y a d'un côté des investisseurs qui pensent que les taux vont baisser, que les liquidités vont de nouveau devenir abondantes, que le prix des actifs va monter. Et ça, c'est bon pour tous les actifs, y compris pour le Bitcoin. Et puis, d'un autre côté, il y a des investisseurs qui pensent qu'on est entré dans une zone de turbulence énorme. Le patron de JP Morgan a fait une citation dans ce goût-là en fin d'année 2023.
Donc, aspect valeur refuge du Bitcoin.
Et en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les investisseurs vont chercher de la diversification dans un actif, à mon avis, qui est devenu quand même un peu un actif comme les autres, mais qui reste le plus différent.
Les autres raisons, alors? Pour cette envolée du Bitcoin, il y a aussi le mode de fonctionnement de cette crypto-monnaie.
Oui, une autre raison plus technique, effectivement, c'est en fait la division par deux de la récompense versée aux mineurs de Bitcoin.
Ce sont les fabricants de Bitcoin. Hein. Ils minent.
On met de la puissance informatique au service de la création de la monnaie pour schématiser.
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour chaque blockchain, il faut inciter les participants à venir, à vérifier les transactions, à valider. À chaque fois, il y a un dispositif d'incitation. Dans le cas du Bitcoin, le dispositif d'incitation, c'est du minage, un concours de calcul. Et en fait, tous les 4 ans, la récompense du gagnant du concours de calcul est divisée par 2. C'est cette récompense qui met en circulation des nouveaux bitcoins. Donc c'est divisé par 2, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de bitcoins en circulation, et ça c'est fait pour faire converger en fait le nombre de bitcoins vers un nombre fini, vers 21 millions, et plus ça devient rare, eh bien plus ça devient cher. C'est ce que sont en train d'anticiper les investisseurs. Et puis je crois qu'il y a une troisième raison, bien entendu, mais d'ordre institutionnel, une décision du gendarme de la bourse américaine d'autoriser des fonds cotés en bourse, investissant dans le Bitcoin, permettant aux investisseurs d'investir dans le Bitcoin sans en détenir.
Et là, on parle même des particuliers, on se tourne vers sa banque qui a pignon sur rue et on peut investir dans du Bitcoin. Ouais. Philippe Trenard, tout cela étant dit, on voit souvent les crypto-monnaies comme quelque chose d'assez irrationnel avec des cours très volatiles. Là, justement, on voit qu'il montre qu'il y a quand même une tendance. Est-ce que c'est rationnel, justement ?
Non, je crois qu'il y a forcément une rationalité. Hein, et la rationalité, je crois qu'elle est assez simple à voir. Une monnaie n'a pas de valeur en soi. Ça peut être du papier monnaie, c'est vrai, des monnaies banques centrales, comme du Bitcoin. Elle n'a de valeur que par rapport aux transactions qu'elle représente. Les monnaies banques centrales, on sait clairement quelles sont les transactions qu'elles représentent. Par exemple, l'euro représente l'ensemble des transactions dans la zone euro, puisque l'euro a normalement cours légal, etc. Le Bitcoin, le seul problème que l'on a, c'est qu'on ne sait pas très bien quel est le volume des transactions qu'il est destiné à représenter. Si il a du succès, il va représenter un gros volume de transactions. S'il n'a pas de succès, eh ben, il représentera un petit volume, voire aucune transaction. Mais vous voyez très bien qu'avec les 21 millions de Bitcoin, eh bien, il vous faut les rapporter au volume de transactions que pourrait représenter le Bitcoin. Et là, eh bien, les avis sont différents. Il y a ceux qui pensent que le Bitcoin a un grand avenir, et parmi eux, il y a des libertariens, n'est-ce pas ? Des personnes qui pensent que, justement, l'intérêt du Bitcoin, c'est qu'on a dit qu'il ne dépasserait pas 20 millions d'unités, alors que les banquiers centraux, eh bien, avant les élections, ils sont capables de créer de la monnaie
et, ne dépendent et de tromper simplement d'un le monde.
Oui, il dépend que d'un algorithme. Donc pour eux, c'est quelque part une sorte de monnaie idéale, une monnaie de confiance.
Alors Emmanuel Cuny, tout cela étant dit, est-ce que c'est avantageux ou alors est-ce que c'est dangereux, comme peuvent le faire les Américains, de placer son épargne dans ces crypto-monnaies, alors, et là en l'occurrence dans le Bitcoin ?
Il y a des risques, on a parlé de la volatilité, c'est-à-dire que ça peut flamber comme descendre très 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 rapidement. Il y a une année qui est marquante, c'est 2022, où là il y a eu quand même des faillites en cascade, notamment le scandale FTX, c'est un fonds d'investissement qui a mis carrément la clé sous la porte.
Et les Philippe Trenard ont tout perdu. Hein.
Ah bah oui, évidemment. Alors Philippe Trenard en parlait il y a quelques instants, c'est aussi un objet de contrôle. Tournement peut-être par les alters mondialistes, qui veulent chercher des voies différentes. Ça peut être un objet politique pour contourner les monnaies traditionnelles des États. Et ça, les grandes banques centrales y sont très attentives. Et puis la question de l'environnement, parce que créer du Bitcoin, ce sont les blockchains dont parlait Jezabel Coupé-Souberan, ce sont de puissants ordinateurs. Au nom de la transition écologique aujourd'hui, investir dans le Bitcoin, c'est vraiment contre-productif.
Les informés de l'Écho, Emmanuel Cuny, Jules Dequisse.
Et nous parlons toujours des crypto-monnaies dans les informés de l'écho avec vous Emmanuel Cuny, avec nos invités Jezabel Coupé-Souberan et avec vous Philippe Trenard. Le Bitcoin qui dépasse à nouveau les 50 000 dollars, même si je crois que le dernier cours d'aujourd'hui c'est un tout petit peu en dessous, mais donc on l'a vu, ça monte, ça baisse. Faut-il s'en inquiéter ou alors se réjouir de cette hausse de cette crypto-monnaie ?
Alors on verra dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures, les prochaines semaines, quel niveau aura ce Bitcoin. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, si les banques centrales sont très attentives à ces mouvements. Elles ne régulent rien pour l'instant. Et stratégie de contournement, la Banque Centrale Européenne justement est en train de travailler à ce qu'on appelle un euro numérique pour permettre aux Européens de faire des transactions sur le net. Ça permettrait de valider en quelque sorte et d'avoir une crypto-monnaie qui est régulée officiellement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors on le citait également tout à l'heure, aux États-Unis, la SEC, c'est l'équivalent de notre autorité des marchés financiers en France. Eh bien la SEC vient de donner son feu vert à l'introduction en bourse à New York de fonds d'investissement, notamment BlackRock, qui peuvent vous proposer d'investir en crypto-monnaie sur la place financière américaine. La question est de savoir, est-ce qu'on va y venir en Europe ?
Et ça, Philippe Trenard, comment on l'interprète justement, cette autorisation aux États-Unis ? C'est que dans un sens, c'est pas si terrible si on l'autorise, ou alors c'est les États-Unis, de toutes les façons, on autorise beaucoup de choses.
Je crois que l'un des soucis qu'avait le régulateur américain, c'était d'abord l'utilisation qui peut être faite de cette monnaie, notamment les utilisations illégales. Alors, ceci étant, faut-il investir son épargne ? Ben, je crois bien que très volatile et très risqué, c'est quand même 10 à 20 fois plus volatile qu'une obligation. Hein. Il n'en demeure pas moins que même un produit très volatile, volatile peut avoir une petite place, aussi petite soit-elle, dans un portefeuille optimal. La vraie question, c'est est-ce qu'il vous sert un peu à diversifier par rapport à d'autres actifs, c'est-à-dire sa volatilité, sa façon de fluctuer n'est pas ne vient pas amplifier les fluctuations des autres actifs, ou une autre façon aussi, est-ce que par hasard il prend de la valeur au moment où il y a des problèmes, je ne sais pas, quand le prix du pétrole augmente, quand la croissance se ralentit. Voilà. Alors la réalité, c'est que il est peu diversifiant et il constitue une couverture assez faible. Ce qui fait que si on doit donner une place, en fait, dans un portefeuille optimal d'épargnants, la place du Bitcoin sera toujours marginale, en tous les cas, à ce stade.
Jezabel Coupé-Soubéran, il y a cette décision aux États-Unis, donc des clients peuvent aller à la banque et placer leur argent en partie sur des crypto-monnaies. Mmh. Est-ce que ça va arriver en Europe ?
Probablement, en fait, la décision américaine...
Qu'est-ce que ça changerait? Parce qu'on peut déjà, si on veut, en tant que particulier, acheter des crypto-monnaies.
Oui, alors, mais juste, revenons quand même un peu sur la décision américaine, parce que c'est une décision qui a été prise un peu sous contrainte. C'est une décision qui a été prise à la suite, en fait, d'une autre décision, celle d'une cour d'appel qui a jugé infondée la décision du gendarme américain de retoquer la cotation en bourse de fonds d'investissement investis en Bitcoin. Donc, c'est une décision qui s'est presque imposée, en fait, aux gendarmes américains. Il se passera peut-être à peu près la même chose en Europe. En fait, alors, on peut évidemment y voir un danger si on considère, en fait, ces actifs comme des actifs dangereux. On peut aussi se dire, au fond, ça permet de les inscrire dans un paysage, justement, plus réglementé et donc de mieux les contrôler. Voilà. Après, il y a ce dont parlait Emmanuel, qui me semble intéressant, en fait, là. Je pense que la meilleure riposte des banques centrales aux crypto-monnaies privées, c'est la mise en place de cryptos publiques, de monnaies numériques de banques centrales.
C'est extrêmement paradoxal dans la mesure où l'attrait de cette monnaie, c'est justement qu'elle n'est pas surveillée, qu'elle est décentralisée et qu'elle n'a pas de rapport avec des institutions. Donc est-ce qu'une telle monnaie peut avoir
du
succès ?
C'est pour ça que les promoteurs de crypto détestent les monnaies numériques de banques centrales, parce qu'ils voient en quelque sorte leur projet récupéré par les institutions qu'ils détestent. Donc évidemment, ils n'aiment pas ça, mais il faut voir l'intérêt de la société dans tout ça. Et avoir une monnaie numérique de banque centrale, eh bien, c'est la possibilité de rétablir un service public de la monnaie qui n'existe plus, parce que le pouvoir de la monnaie est accaparé par des banques qui font payer, en fait, le service de gestion de moyens de paiement, qui font payer le crédit, bien entendu.
Et cela étant dit, justement, Emmanuel Cuny, est-ce qu'il y a un risque qu'un jour, des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies, puissent remplacer les monnaies d'aujourd'hui, en tout cas prendre le pouvoir?
Ça pourrait être le sens de l'histoire, mais ne serait-ce que sur les transactions, par exemple, sur Internet, acheter aujourd'hui sur Amazon, etc., ça reste beaucoup plus facile avec une carte bancaire que passer par des crypto-monnaies, le Bitcoin notamment. Donc, la monnaie fiduciaire, entre guillemets, la vraie monnaie, sonnante et trébuchante, comme on dit, il y a encore très probablement un grand avenir devant elle. Enfin, là, c'est plutôt aux experts dans le cadre de la réforme des monétaires.
Non, mais d'autant que le projet monétaire alternatif à la base du Bitcoin, il s'est un petit peu, c'est un peu évaporé. C'est-à-dire que les cryptos aujourd'hui sont devenus finalement des actifs assez spéculatifs. Tout ça s'est fondu dans le capitalisme financier. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça a de plus en plus d'attrait auprès des investisseurs. Le projet monétaire alternatif qui était un projet de société, parce qu'un projet de monnaie c'est toujours un projet de société, qui était un projet un peu libertarien, anarchiste, technophile. Ce projet-là, il a disparu. Et si tant est qu'il n'ait pas disparu, est-ce que c'est vraiment de cela qu'on a besoin pour la société de demain? Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de toute autre chose, en fait. On a besoin d'une monnaie qui nous permette de respecter les limites planétaires, de respecter l'humain. Et ça passe par un autre projet monétaire que le Bitcoin.
Philippe Trenard ?
Non, je crois que c'est quand même un actif intéressant. Parce que les monnaies, en fait, la création monétaire par les banques centrales croît. Elle croît avec l'activité, avec l'inflation. D'ailleurs, elle génère une inflation de 2%.
C'est son tourner objectif. La planche à billets.
C'est la planche à billets. Là, nous avons des monnaies...
Elles font l'inverse. Hein,
nous avons des monnaies qui, justement, décident, in fine, de ne plus s'accroître en volume. Donc, c'est un actif extrêmement intéressant et ça représente quelque chose de très intéressant. Alors, je crois, une petite pointe sur les monnaies banques centrales, les crypto-monnaies, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les entreprises, par le biais des crypto-monnaies banques centrales vont pouvoir avoir un dépôt, entre guillemets, garantie auprès de la Banque centrale, ce qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas avoir.
On n'a pas fini d'en parler, à mon avis, dans les informés de l'écho de ces crypto-monnaies et de toutes les incidences. Un livre qui tombe à pic dans ce contexte, le vôtre, vous venez de le publier, Jezabel Coupé-Soubéran, Le pouvoir de la monnaie, c'est aux éditions Des liens qui libèrent. Merci à vous aussi, Philippe Trénard, du Cercle des économistes, d'avoir participé à cette émission, et à vous, Emmanuel Cuny, au rendez-vous, comme chaque samedi, les informés de l'écho à retrouver aussi sur franceinfo.fr.